Messieurs les producteurs de cinéma sonore, regardez-moi, regardez-moi encore. La tête au sandale, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire. Une vedette internationale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la zone de graphite 94.9. Ce matin, la matinale, nous allons parler du théâtre du Beauvaisis. On en revient juste après le générique.
De la télé à vision, regardez-moi, regardez-moi, voyons.
Ce matin, pour m'accompagner, deux invités, Xavier Crossi. Bonjour, bienvenue, vous êtes le directeur du Théâtre du Beauvaisis et Camille Thieu, attaché de communication au Théâtre du Beauvaisis. Bienvenue à tous les deux.
Bonjour, merci.
On va parler un petit peu du théâtre, de l'équipement, un peu son historique et notamment ses péripéties, parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis notamment 2020. Qu'est-ce que le Théâtre du Beauvaisis ?
C'est ça, on a une vie mouvementée. Alors le Théâtre du Beauvaisis, à la base, c'est un théâtre municipal à Beauvais. Là, je remonte à il y a une vingtaine d'années ou une vingt-cinquaine d'années, qui avait la particularité d'être situé dans un bâtiment qui était mal adapté aux enjeux de la scène actuelle, en termes d'accueil, de spectacle, etc. Donc c'était un bâtiment qui était en centre-ville, et la décision a été prise de le démolir et de construire un nouveau théâtre. Donc tout ça, ça s'est fait à la fin des années 2010-2015. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé à l'automne 2015, le théâtre était déjà installé dans une structure provisoire. Pour ceux qui connaissent Beauvais, c'est à la Maladrerie Saint-Lazare, c'est un peu à l'extérieur de la ville. Donc une structure provisoire qui a permis au théâtre de continuer ses activités pendant que les travaux de démolition et de reconstruction avaient lieu.
Donc gros projet de reconstruction, de démolition et ensuite de reconstruction, mais comme les histoires se passent jamais facilement, et déjà il y a eu le Covid pour commencer.
Alors déjà oui, tout se passait bien, sauf qu'à un moment donné, donc l'été 2020, soit après le Covid, enfin après le premier confinement, le chantier donc avait été suspendu pendant le confinement, il a repris à la fin, je sais plus, c'était au mois de juin 2020, et le 23 juillet 2020, un incendie a eu lieu à la fin du, quasiment à la fin.
À livraison, ouais.
C'est-à-dire que vraiment, on aurait dû rentrer, comme il y avait eu le Covid, ça avait été décalé, a priori on aurait dû y rentrer en septembre 2020, et puis du fait qu'il y a eu les machins, on avait prévu, on avait planifié d'y rentrer à la fin de l'année 2020, mais là, du coup, évidemment, tout est tombé à l'eau, puisque suite à cet incendie, qui n'a pas été un incendie dramatique au sens où il n'a pas détruit le théâtre, mais il a quand même effectivement impacté fortement le hall. Et du coup, évidemment, le chantier s'est arrêté. Et après, il y a toute la question administrative de gestion des dossiers qui fait que nomination d'experts, etc., etc. Et enfin, le chantier a pu redémarrer il y a un an. Donc soit quand même 3 ans après quasiment, et là maintenant il est en très bonne voie, on touche du bois, tout ça, et on devrait enfin, on devrait enfin pouvoir rentrer dans le théâtre là au mois de septembre de cette année 2024.
Ouais, je vous l'ai dit, c'était pas un très gros incendie, c'est plus les suies, etc. qui créent des problèmes, sauf qu'il y a eu un problème avec les assurances, c'est ça, les assurances n'ont pas voulu payer la demande initiale.
Alors là, moi je suis pas aux manettes là-dessus, moi je suis juste entre guillemets
directeur de la structure.
Du théâtre, quoi, le directeur du théâtre. Donc ça, c'est tous les aspects techniques, administratifs, juridiques, etc. C'est la communauté d'agglo de Beauvais qui est propriétaire du lieu, enfin du site, qui est au parfum de tout ça. Ce que je sais simplement, c'est que l'expertise a été assez longue, parce qu'en fait, la problématique, c'était de savoir qu'est-ce qui pouvait être conservé de l'incendie a eu lieu dans le hall du théâtre. Donc il y avait éventuellement un problème de fragilisation du béton à certains endroits. Tout ça, c'est apparemment assez long d'arriver à déterminer ça. Donc du coup, quand l'expertise technique a été faite, les travaux ont pu reprendre. Par contre, juridiquement, c'est loin d'être terminé.
D'accord.
Ils en ont pour des années, là, de procès, de gens qui vont effectivement essayer de se renvoyer la responsabilité. Bon, c'est un dossier juridiquement très complexe.
Ouais, parce qu'en 4 ans, évidemment, les coûts du bâtiment ont changé, le prix des matériaux ont changé, l'inflation, etc. Ouais. Donc c'est un bâtiment qui, à la base, devait coûter une dizaine de millions d'euros, puis ensuite une quinzaine, et ensuite, aujourd'hui, 35...
Il n'y a pas eu de dépassement budgétaire comment dirais-je, si les choses avaient suivi leur cours normalement, il n'y aurait pas eu un glissement, c'est pas la Philharmonie de Paris quoi, qui a triplé, ou le réacteur EPR là, de je ne sais plus où.
Ou la piscine, là, j'ai vu en région parisienne aussi.
On n'est pas dans ces zones-là. Par contre, c'est vrai que du fait qu'il y a eu ce problème d'incendie, etc., eh bien oui, il y a un dépassement par rapport au budget initialement prévu, mais qui devrait être compensé une fois que les responsabilités auront été déterminées par les assurances des uns et des autres. Quoi.
Comment ça se passe quand on arrive dans un établissement et qu'en fait on n'a jamais l'établissement dans les mains et qu'on n'a que des lieux provisoires ?
Eh bien, on est frustré. Au bout d'un moment, on est frustré. Et pas que moi, l'équipe et le public aussi. Parce qu'il est vrai que pendant des années, les spectateurs de Beauvais étaient habitués à un certain standing de confort. Quoi. Ils étaient dans un théâtre, certes, en partie obsolète et vieux, mais où néanmoins il faisait chaud l'hiver et où les sièges étaient confortables, etc. Donc, quand ils ont pris la décision de fermer, de démolir, etc., la structure provisoire qui a été installée, bah, elle est provisoire, quoi. Bon, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, théoriquement, ça devait durer 2-3 ans, cette affaire-là, 2-3 à 4 ans, quoi. Et donc, évidemment, même si on est très heureux d'avoir eu cet outil, parce que Beauvais, c'est à l'inverse d'Amiens, par exemple, où il y a 5 ou 6 théâtres, donc s'il y en a un qui ferme, il peut toujours programmer chez les copains. À Beauvais, c'est pas la situation. À Beauvais, il y a le théâtre du Beauvaisis, et puis après, il y a quasiment pas d'autres salles, quoi. Donc, on a été très heureux d'avoir cette structure provisoire qui nous a permis de continuer à faire un travail avec le public, les artistes et tout ça, mais c'est vrai que c'était, disons, un peu précaire. Le confort est modeste, l'hiver, c'est compliqué, il fait un peu froid, etc. Donc, c'est vrai que par rapport au public, c'est un peu frustrant, et on a probablement... Moi, j'entends beaucoup dire des gens qui me disent « Ah bah, dès qu'on sera à nouveau, que vous serez à nouveau installé dans un bâtiment correct, confortable, on reviendra. » Pour l'instant, les gens... certaines personnes, ça les a dissuadés de venir, quoi. Voilà.
Ouais, c'est les plus volontaires, les durs de durs qui viennent voir du théâtre, de la danse, etc.
On va dire ça.
Vous avez un label qui s'appelle Scène Nationale. À quoi ça correspond, Scène Nationale ? Quelles sont les missions que l'État vous donne ?
Alors, effectivement, l'avantage d'être une scène nationale, c'est que l'État rentre dans le tour de table du financement de façon assez conséquente, assez importante, même si c'est les collectivités territoriales qui restent les premiers financeurs, et notamment la communauté d'agglo, mais bien évidemment, l'État, effectivement, attend un certain... bon, il y a un cahier des charges, on va dire, pour avoir le label.
Il y a des missions,
quoi. Pour le maintenir, voilà. Et ces missions, bon, ben, grosso modo, c'est... Comment est-ce qu'on pourrait résumer ça de façon... Bon, de façon basique, c'est la pluridisciplinarité, déjà. Donc, c'est faire du théâtre, de la danse, de la musique, ce que nous faisons, évidemment, du cirque aussi, voilà. Donc, c'est une pluridisciplinarité, et avec des propositions artistiques qui, a priori, nécessitent un subventionnement public, au sens où peut-être que la simple logique commerciale du marché ne suffirait pas pour rentabiliser ou équilibrer le budget. Bon, on sait très bien que dans les théâtres, enfin dans les établissements de spectacle vivant, dès que vous ouvrez le théâtre, dès que vous mettez la lumière et le chauffage, ça a déjà un coût relativement important, et effectivement, la subvention publique sert, mais a priori, elle est incitative pour proposer aux spectateurs des propositions artistiques qu'ils n'iraient peut-être pas spontanément découvrir par eux-mêmes. Donc c'est un peu une mission d'accompagnement des projets artistiques, d'accompagnement des spectateurs vers des si vous voulez, pour aller vite, Johnny Hallyday, paix à son âme, on n'a pas besoin de subventionner les concerts de Johnny Hallyday, les gens étaient prêts à y aller, voilà.
Quand vous, la télé.
Quand vous proposez du théâtre contemporain, bon, c'est moins évident, donc c'est, voilà. Donc l'État demande aux scènes nationales, il y en a 76 en France, de faire un travail sur le public, un travail de médiatisation, de médiation pour permettre aux habitants d'un territoire d'aller découvrir du théâtre, de la danse, etc., qu'ils n'iraient peut-être pas spontanément tout seuls découvrir.
Des artistes associés également, qui sont ces artistes associés ? C'est des gens que vous avez tout au long de l'année, vous avez sur 3 années, c'est quoi la...
C'est ça, l'idée c'est d'avoir effectivement un compagnonnage un peu structuré avec des compagnies. Donc là actuellement, puisque bon, c'est vrai que les complexités liées à cette histoire de déménagement qui aurait dû avoir lieu, qui n'a pas eu lieu, les travaux reprenaient pas, ça rendait un peu compliqué de se projeter. projeter. Or, on est dans des métiers où il faut vraiment se projeter. C'est-à-dire que moi, actuellement, je suis en train de travailler avec, sur la saison 2025-2026. La saison 24-25, elle est bouclée, elle est dans la boîte, et on est déjà en train de travailler sur 25-26. Donc, c'est des activités où il faut quand même pas mal anticiper. Donc, vu les complexités techniques, logistiques dans lesquelles on était, on a effectivement maintenu le principe d'artiste associé, mais un peu moins que ce qu'on aurait souhaité à une époque. Donc actuellement, on a 3 compagnies qui sont associées. Une compagnie de théâtre, Noé Mixikova, une compagnie de danse, Myriam Gourfing, pardon, et une autre compagnie de danse qui est de jeune chorégraphe, Magda Kachouche. Voilà. Alors, associé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on diffuse des spectacles qu'ils ont déjà réalisés. Donc voilà, ils ont un répertoire, on diffuse des spectacles de répertoire dans la programmation normale. On accompagne en coproduction une prochaine création. Et ils ont un lien avec nous qui se structure un peu dans la durée pour pouvoir mener un certain nombre d'actions sur le territoire de médiation.
Donc là, c'est en résidence, c'est en résonance, vous retournez dans les villes de l'agglo, ils vont faire des actions dans les villes de l'agglo.
Voilà, dans les villes, dans les établissements scolaires, dans les associations, enfin dans tous les partenaires divers et variés qu'on peut avoir. Donc on structure un programme avec eux, et eux, comme ça, ils ont une vision sur 3 ans, où ils savent combien de spectacles ils vont diffuser, combien de spectacles on va accompagner en coprod, et combien de volume d'action territoriale, d'action d'éducation artistique ils vont pouvoir mener.
Là, évidemment, mi-mai, début mai, c'est la fin de saison presque. Hein. Il reste quelques mois, on va dire un mois et demi, grosso modo. Qu'est-ce que vous proposez du coup? C'est quoi le Festival des Arts en Beauvaisis?
Alors, le Festival des Arts en Beauvaisis, c'est une tentative de réponse à une question compliqué, qui est la question des artistes locaux, des artistes sur un territoire. Bon, parfois n'ont pas forcément des conditions de visibilité, des conditions de diffusion, de tournée, etc., qui leur permettent d'accéder à un niveau de visibilité régional ou national. Bon, donc il peut y avoir comme ça une certaine amertume de la part de certains artistes qui peuvent dire oui, mais voilà, il y a une scène nationale, j'y ai pas accès, etc. Donc pour essayer d'avancer de façon, dialectique sur la question, dire ok, bon, bah, à ce moment-là, créons un moment dans la saison, donc le Festival des Arts en Beauvaisis, créons un moment où bah, les artistes locaux, alors locaux c'est un peu au sens large du terme, c'est pas forcément que les artistes de Beauvais, disons les artistes de la région, je veux dire à la limite s'il y a une compagnie qui est à Noyon et qui veut venir jouer dans le Festival des Arts en Beauvaisis, on va pas les refuser quoi. Donc la question, la condition entre guillemets, ce sont des compagnies professionnelles, même si c'est des compagnies qui ont encore une fois, ils sont dans la précarité, etc. Mais ce n'est pas des compagnies amateurs, a priori, c'est des compagnies professionnelles. Et on les accueille de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'on leur donne accès, y compris à des temps de répétition en amont, et évidemment, on les rémunère pour ça, etc. Et voilà, et ça leur permet de présenter leurs travaux, sachant qu'on a intégré dans ce programme d'artistes locaux les artistes associés. Parce que les artistes associés, même s'ils ne sont pas locaux, du fait qu'ils ont cet engagement avec nous sur une certaine période et qu'ils font un travail avec les gens, la population, etc., quelque part, on peut considérer que ce sont aussi des artistes en Beauvaisis.
En tout cas, ils sont locaux pendant au moins 3 ans. Quoi.
Voilà.
Je vous propose, c'est qu'on rentre plus en amont dans la programmation, mais juste avant, bah justement, on va écouter un extrait d'un artiste local, c'est le groupe Square, notamment avec Pedro, c'est Olivier Delameur qui est ex-batteur de King Size et qu'on peut retrouver à pas mal de festivals, hein, Festival Malice et Merveille, également les scènes d'été de Beauvais, et on écoute donc un extrait de l'album qui vient de sortir, ça s'appelle La Distance.
Comme la nuit est étrange, elle n'ose jamais se montrer. Comme ses visages que l'on range dans nos mémoires sous scellés. De toute évidence, on peut se tromper. Qu'importe la distance, la distance sous nos pieds. Quand les souvenirs se mélangent, il suffit de remuer. avec les souvenirs, on s'arrange, on en met de côté. De toute évidence, on peut se tromper. Qu'importe la distance, la distance sous nos pieds. Qu'on s'échange comme des mouchoirs en papier. Se vide et se change comme ces choses à jeter. De toute évidence, qu'importe la distance, la distance sous nos pieds.
Square, premier album de Square sur les ondes de Graphite avec le titre La Distance, et ils seront ce mercredi au Théâtre des Poissons à Frocourt, c'est 10€. Et vous pouvez faire un tour sur le bandcamp du groupe, toujours en compagnie de deux membres du Théâtre du Beauvaisis, scène nationale à Beauvais. On est en compagnie du directeur Xavier Crossi et Camille Thieu. On continue de parler un petit peu du Festival des Arts en Beauvaisis, et c'est Camille qui va se coller sur la programmation.
Alors, bonjour. Du coup, la programmation du Festival des Arts en Beauvaisis, c'est du 22 au 25 mai 2024, donc la semaine prochaine. On ouvre en fait le festival avec le grand cycle de la vie ou l'Odyssée humaine, avec Alain Marc et Laurent Maza, donc le mercredi 22 à 19h. Donc c'est une lecture musicale et visuelle. Donc Alain Marc, c'est un poète, et Laurent Maza, qui lui est musicien, donc qui fait de la musique électroacoustique. Ensuite, le mercredi, le 22 mai, donc c'est toujours à 20h30, ça va être le Petit Opéra, donc avec l'Orchestre Philharmonique de l'Oise, avec Véronique Chevalier, soprano lyrique, Pascal Bourgeois, ténor lyrique léger, Daniel Galvez Valero, ténor lyrique.
Je suis bien content de pas annoncer les noms des artistes.
Hein. donc ça se passe au théâtre. Ça sera une opérette, donc trois chanteurs qui rencontrent un orchestre et qui se racontent des histoires lyriques. Et puis, le jeudi 23 mai, à 19h30, et cette fois-ci à l'Auditorium Rostropovitch, donc à Beauvais, ce sera la lecture « Les évadés » d'Amélie Cornu. C'est une lecture sur le collectif existant Sauvant les riches, les évadés. Donc un documentaire fiction, jubilatoire et décalé, tiré de faits et de témoignages réels. Un plaidoyer pour la justice et la citoyenneté.
Le samedi 25.
Le samedi 25, à 11h, on se retrouve Place des Maréchaux à Beauvais. Donc pour la suite d'un projet participatif. Avec notre artiste associée Noémie Ksikova, qui s'appelle Cartographie Sensible. Cette fois-ci, Noémie va en fait déambuler dans le centre-ville de Beauvais et faire une restitution des souvenirs qu'elle a enregistrés auparavant avec les habitants.
Donc en fait, elle a été avant chez les habitants et elle a enregistré, c'est quoi, avec un enregistreur numérique, c'est quel support, c'est ça,
ouais, c'est ça.
Et donc c'est quoi, c'est au casque, ça va être restitué comment la restitution? Là, on se tourne vers le directeur.
C'est une restitution.
C'est la première restitution. Donc, on va le découvrir en même temps que vous. C'est ça.
Dans l'espace public.
Ok. Pour théâtre jeunes enfants, c'est ça le samedi 25 mai.
Voilà. Donc, ça, c'est le spectacle Poussière avec Sophie Mailleux. Donc, un spectacle dès 9 ans de théâtre de matière et de marionnettes qui se passera au théâtre. Je vous lis le résumé du spectacle. La poussière a envahi l'espace et l'univers n'est plus que décombre. Mais que reste-t-il de la vie au milieu du chaos? Cette pièce marionnettique nous renvoie à la fragilité du monde, mais elle évoque aussi le pouvoir de réincarnation du vivant face à sa propre adversité. À travers une métaphore poétique, Poussière fait résonner en nous l'actualité d'un environnement qui se délite, nos peurs et nos espoirs de le voir se reconstruire.
Je tiens à dire que c'est un très beau spectacle. C'est très poétique, c'est vraiment... C'est pour les enfants, mais les adultes peuvent vraiment y trouver beaucoup de plaisir et d'intérêt.
Alors ça, c'est pour le festival, mais il y a des choses qui se passent avant, puisqu'il y a Foutoir Céleste qui commence ce soir ou demain pour le public éducatif, hein, pour les écoles. Et ensuite, on pourra les retrouver ce week-end, c'est ça?
Oui, alors Foutoir Céleste, c'est un programme de cirque, effectivement, qui a la particularité, on en est très heureux, d'être sous chapiteau. C'est rare maintenant, enfin, voilà, c'est du cirque. Alors, on le fait en partenariat avec la Batoude, qui est l'école de cirque de Beauvais, et c'est eux qui nous ont proposé d'installer ce chapiteau en liaison avec le réseau Acro Rap, qui est un collectif qui s'est constitué avec Creil, la faïencerie de Creil, avec donc nous, la Batoude, et puis
le palace de Montataire,
etc., pour organiser l'implantation de ce chapiteau sur le domaine public dans le quartier Saint-Jean de Beauvais. Et effectivement, c'est la compagnie Foutoir Céleste qui va présenter son spectacle sur une relative longue période, puisque des spectateurs viendront de Creil, viendront de Montataire, viendront de Beauvais, évidemment, etc. Voilà.
Alors là, c'est vrai qu'à Beauvais, en ce moment, les travaux, il y en a partout, puisque l'ASCA est également en travaux. Du coup, tout le monde est obligé de penser...
Le quadrilatère est en
travaux. De comment ?
Le quadrilatère
est en travaux aussi, ouais. Ouais. En fait, il ne reste plus que l'Hélispace qui ne reste pas encore en travaux, voilà. Mais qui devrait peut-être être en travaux prochainement, je ne sais pas.
Il y a la cathédrale aussi.
Ouais, on fait rarement des concerts à la cathédrale, si vous en avez programmé.
À une époque, on avait pensé éventuellement faire un requiem là-bas. Mais bon, pour des raisons de technique, ça n'a pas été possible. Mais on pourrait.
Comment on conçoit une programmation dans un lieu qui n'est pas son lieu, notamment en termes techniques? Parce que du coup, souvent, les artistes ont des ouvertures de scène, des hauteurs, des machins, il faut accrocher le matos. Comment ça se passe pour vous?
On a eu deux écueils à affronter pendant cette période. C'est le fait de n'avoir qu'un plateau et non pas deux, ce qui est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus pratique d'avoir deux plateaux. Parce que
donc souvent, c'est grande jauge et petite jauge.
Voilà. Ça permet d'avoir des approches un peu différenciées entre des spectacles grand public, des spectacles moins grand public, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça manque un outil complet, quoi. Alors, on utilisait un peu comme deuxième plateau, mais c'était très compliqué, la grange médiévale qui est juste à côté, parce que actuellement notre structure provisoire est implantée dans un lieu magnifique, donc la maladrerie Saint-Lazare, qui est ce sont des vestiges vestiges patrimoniaux d'une ancienne léproserie, où il y a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est une grange médiévale dont la structure est restée identique depuis le XIIe siècle. Quoi. C'est pas comme à Notre-Dame, ça n'a pas brûlé.
C'est la charpente en forme de bateau. Une
charpente en forme de bateau, magnifique. Donc, on a de temps en temps accès à ce lieu pour pouvoir y présenter des choses, mais c'est compliqué parce que c'est pas fait pour ça non plus. La maderie, c'est pas un lieu... Voilà. Bon.
Donc, haut de plafond, voilà. Il fait froid.
Obstacle de ce point de vue-là. Et puis, effectivement, la deuxième question, c'est que notre plateau est grand, notre plateau provisoire est grand, mais il n'est pas haut. On est limité à 8 mètres maximum, quoi, 7 mètres, 90, quelque chose comme ça. Or, de nos jours, beaucoup de choses se font plutôt avec des nécessités, même en termes de décor, et même si ce n'est pas forcément des décors, mais de la projection vidéo, des lumières, etc., nécessite une certaine hauteur. Et en plus, troisième écueil dans notre partenariat avec l'école de cirque La Batoude, c'est qu'on ne peut pas accrocher. Comme c'est une structure provisoire, et que c'est, comment dirais-je, voilà, on peut pas suspendre de funambules, voilà. Donc le cirque qu'on fait là-bas est obligatoirement du cirque au
de
sol.
Voilà.
Bon, donc tout ça fait que il faut gérer ça, quoi. Il faut gérer les contraintes, c'est pour ça qu'on est très très heureux de pouvoir enfin rentrer dans ce bâtiment définitif, parce que tout ça va disparaître. Le fait d'avoir deux salles dont nous maîtrisons, nous, totalement, ce qui n'est pas le cas de Lagrange, parce que Lagrange, évidemment, il y a aussi un projet qui se développe à la drôlerie, qui est un projet propre à l'équipe qui est là-bas. Donc le fait de pouvoir utiliser nos deux salles et de maîtriser l'utilisation de nos deux salles, par exemple pour le Festival des Arts en Beauvaisis, va beaucoup, enfin pas que pour ça, mais aussi pour ça, va beaucoup nous faciliter la vie. Puisque là, actuellement, on est obligé de faire des choses à l'auditeur Mostropovitch, on est obligé d'en faire à Lagrange, au théâtre. Ça complexifie un peu tout, ça rend les choses plus difficiles pour l'équipe technique, parce que voilà, c'est pas la même chose de tout gérer.
C'est où est-ce que je vais aujourd'hui ?
Voilà.
Et la lisibilité aussi pour le public, en fait, de savoir
absolument
où est-ce qu'ils vont se rendre.
Voilà.
Et pour l'accueil des artistes, ça se passe comment ?
Oui, ouais. Parce que ça a été bien fait, cette structure provisoire est très bien faite. Il y a un espace loge, bon, qui est très cohérent. Après, nous, quand je suis arrivé, on a assez vite loué un appartement en centre-ville pour pouvoir alléger un peu les contraintes d'hébergement, parce que ce qui est très précieux de nos jours, où en plus, l'inflation, les chambres d'hôtel, tout a augmenté terriblement. Et non, mais mine de rien, c'est une des difficultés auxquelles le milieu du spectacle vivant se confronte actuellement, c'est que l'augmentation des coûts de carburant et l'augmentation des hébergements, des nuitées, plombe de façon assez conséquente.
Et surtout avec les JO, ça avait en plus augmenté. Bon, ça s'est un peu calmé,
Après, c'est vrai que la période des JO ne va pas directement nous impacter, puisque en fait, juillet-août, en général, on fonctionne pas, quoi. Mais oui, donc du coup, on veille évidemment à ce que les artistes. D'ailleurs, c'est un des points positifs que nous avons, c'est que les compagnies accueillies sont en général enchantées et ravies de l'accueil qu'il leur est fait. Quoi.
Alors où est-ce que vous faites votre marché ? Où est-ce que vous allez voir les artistes ? Où est-ce que vous allez voir ce qu'il y a ? Il faut aller voir du cirque, de l'opéra, c'est un peu grand écart artistique.
Ouais.
Hein.
Alors, déjà, pour le cirque, on a ce partenariat avec la Batoude, auquel on tient beaucoup. Et c'est eux qui ont plus l'expertise cirque que nous. Quoi. Enfin, quand je dis nous, c'est l'équipe du théâtre, parce que je travaille aussi. La particularité qu'on a au théâtre du Beauvaisis, c'est que nous sommes deux. Enfin, je suis directeur, il y a une directrice adjointe qui est Stéphanie Ferré, qui est aussi en charge du secrétariat général, c'est-à-dire de tout l'aspect interface avec le public, que ce soit accueil des artistes, que ce soit billetterie, que ce soit relations publiques, communication, etc. Bon, donc on travaille vraiment en binôme avec Stéphanie. Donc. Comment dirais-je, la programmation, c'est un peu une programmation, c'est pas uniquement faire le marché, quoi. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, si vous voulez, la particularité en plus qu'on a à Beauvais, c'est qu'on n'est pas loin de Paris et de la région parisienne. Il y a quand même tout ce qu'il faut en matière de proposition théâtrale, entre les grands théâtres, des espaces plus alternatifs, etc.
Les opéras.
Entre l'Échangeur de Bagnolet, le Théâtre de la Bastille et le Théâtre de l'Odéon, vous avez déjà un panel. Donc je vais énormément voir de spectacles. Je vais énormément voir de spectacles, notamment de théâtre et de danse. En plus, comme j'ai un certain parcours dans le métier, donc je connais connais pas mal de compagnies, j'ai un peu cette espèce de connaissance intuitive qu'on peut retrouver, j'imagine, en musique.
Bien sûr.
Les gens qui, depuis des années, font de la programmation musicale, ils repèrent assez vite ce qui va marcher.
Est-ce qu'il y a un grand événement, un peu comme nous, on peut avoir le Printemps de Bourges pour la musique, il peut y avoir Avignon. Avignon aussi pour vous, hein.
Avignon, le Festival d'Avignon, il a la particularité d'accueillir pendant un mois quasiment tous les programmateurs de France et de Navarre et quasiment toutes les compagnies entre le off et le in. Alors évidemment, passer une semaine à Avignon, en général, je passe une semaine au Festival d'Avignon et en une semaine, je vois 32 ou 34 spectacles, quoi. C'est-à-dire qu'on peut commencer dès 11h du matin jusqu'à minuit, quoi. Donc c'est l'occasion d'y aller. Alors évidemment, ça me permet à la fois de repérer des trucs et puis aussi de suivre des parcours de compagnie, des gens que j'ai vus, que j'avais pas vu depuis un moment, que je revois, etc. Donc c'est un peu ça, une programmation, c'est au croisement comme ça, à la fois de la connaissance qu'on a de ce qui se passe dans le milieu, des bonnes surprises, des découvertes, faut faire un peu un équilibre entre tout ça, sachant qu'en plus à Beauvais, on est les seuls. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de se dire, par exemple, bon, moi ce qui m'intéresse c'est le théâtre contemporain, donc on va faire que du théâtre contemporain. Ce serait pas juste par rapport au territoire, parce que il y en a pas d'autres, quoi. C'est vrai qu'en région parisienne, vous pouvez beaucoup plus, les salles se spécialisent beaucoup plus.
Oui, bien sûr.
Parce que il y a cette offre et voilà. Donc du coup à Beauvais, on a une mission pluridisciplinaire et éclectique. C'est-à-dire qu'on trouvera à la fois du théâtre classique, du théâtre contemporain, des formes grand public, rassembleuses, des formes plus performatives. Enfin voilà, on essaye d'avoir différents niveaux d'entrée, mais en restant quand même dans la singularité d'un geste artistique. Alors je sais pas comment dire ça simplement, mais l'idée c'est de dire il y a des gens qui sont très sincères dans ce qu'ils font. Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'on essaie de programmer vraiment pas des gens qui sont dans des systèmes qui fonctionnent et donc on va faire le système qui fonctionne avec le casting qui va bien, avec le machin, mais c'est vraiment d'essayer d'être au plus près d'une sincérité, d'un désir artistique de transmettre quelque chose, quoi.
C'est quoi votre péché mignon ? C'est quel courant artistique ? C'est quoi ? Je sais que vous avez écrit également des bouquins. Un bouquin, il me semble ?
Oui, enfin.
Un recueil ?
Oui, c'est un.
C'est quand même l'écriture.
Oui, oui. Bon, ça, c'était un peu anecdotique, je dirais. Mon péché mignon, franchement, je ne saurais pas dire. C'est le théâtre ou la danse. Comment dire ? Pas l'académisme, en tout cas. C'est-à-dire que ça peut être du théâtre classique, mais à condition que ce ne soit pas du théâtre fait comme avant, quoi. C'est du théâtre traversé par les interrogations et les par exemple, le Don Juan de David Bobet, qu'on présente en ouverture, le premier spectacle de théâtre dans le Nouveau Théâtre en janvier 2025, ça va être le Don Juan de David Bobet. Bon, c'est le Don Juan de Molière, on va dire, ouais, encore Molière, etc. Non, Bobet a fait un travail passionnant à partir de ce texte classique, qu'il a respecté totalement dans son intégrité, il ne s'est pas amusé à introduire, je ne sais pas quoi, des mots d'argot dans Don Juan, ce n'était pas ça l'enjeu. Par contre, il a amené une lecture de ce qui se passe dans Don Juan en termes de domination, en termes de rapport de domination, que ce soit de rapport de classe ou de rapport de sexe, etc., qui est vachement intéressante. Quand même.
Et vous, Camille, quel est votre péché mignon culturellement ? Ça peut être autre chose qu'au théâtre, hein, même musique actuelle.
Ah non, moi j'aime aussi beaucoup le théâtre. Après, le cirque aussi. Voilà.
C'est quoi le métier d'attaché de communication ? Parce que c'est quoi le parcours ? Vous avez choisi directement de rentrer dans la culture ou attaché de communication, on peut très bien bosser pour une mairie, pour autre chose ?
Moi j'ai déjà une formation plutôt dans le graphisme.
D'accord.
À la base. Et l'année dernière, en fait, parce que là, aujourd'hui, c'est mon premier poste, en fait, en tant qu'attachée à la communication. Et avant, j'étais en alternance au théâtre de la faïencerie à Creil, donc à la communication. Et ça m'a vraiment plu. Déjà, pour la partie communication, aussi pour le côté un peu créatif, la partie plutôt graphique et aussi le travail sur le terrain qu'on peut faire. C'est assez varié, assez riche.
Comment on communique d'ailleurs quand on est un théâtre national ? C'est quoi la cible ? C'est qui la cible ? À quoi il ressemble votre public ?
Alors, une des difficultés que nous avons, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir.
C'est pour ça que je pose la question.
Une des difficultés que nous avons, quand je suis arrivé au théâtre en 2015, à Beauvais, la moyenne d'âge du public dans la salle, ça se baladait plutôt autour de 70 ans et au-delà qu'en dessous. Quoi. Bon. Donc ça, c'est une vraie question. Comment on fait effectivement pour s'adresser à un public plus jeune, en sachant que... Alors, d'une certaine façon, on a des jeunes, évidemment, puisqu'il y a tout le travail avec les scolaires, tout le travail avec les lycées, les collèges.
Toute la médiation.
Voilà. Et puis, donc, les personnes d'un certain âge. Donc, comment on fait pour travailler sur la tranche des 25, 40 ans, 45 ans, sachant que c'est pas évident. Dans ces tranches d'âge-là, il y a les enfants, c'est le moment où une vie se met en place et dans laquelle, si on n'a pas eu la chance auparavant de rencontrer le plaisir d'aller voir du théâtre, de la danse, du cirque, machin, on n'ira peut-être plus, quoi. Ou on y retourne. Tournera peut-être plus tard. Ça, c'est un travail qui repose beaucoup dans le théâtre du Beauvaisis et dans les scènes nationales sur ce qu'on appelle le secteur des relations publiques, c'est-à-dire les personnes. On ne va pas rentrer dans la technique, c'est le secrétariat général. Par exemple, Camille fait partie du secrétariat général, c'est-à-dire que la communication, les relations avec le public, c'est un travail qui se construit dans le temps, par le contact. Par exemple, un des éléments de relation avec le public très important que nous avons au théâtre du Beauvaisis, c'est Erika, la personne qui a la billetterie du théâtre, qui vend les billets et qui est une fantastique médiatrice. Parce que Erika, quand elle discute avec quelqu'un qui prend une place pour je sais pas quoi, elle va lui dire ah mais tiens au fait ça vous intéresserait pas deux, etc. Et ça c'est extrêmement précieux. En plus, Erika est là depuis 20 ans ou 25 ans, donc elle a une connaissance. Voilà, c'est un ensemble de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que nous avons dans nos métiers, c'est qu'on est dans de l'artisanat. C'est-à-dire, effectivement, le théâtre, c'est de l'artisanat par rapport à, à Christopher Nolan ou par rapport à Dune 2. C'est pas du tout une critique, c'est juste pour dire que les enjeux, financiers, sont... Bon, donc il y a la communication de masse qui accompagne ces objets artistiques-là, qui fait qu'à un moment donné, tout le monde en a entendu parler. Nous, quand on présente le Don Juan de David Bowie, on va pas se payer une station de métro dans Paris pour dire Don Juan à Bowie, etc. Donc on joue pas dans la même cour. Donc du coup, on doit faire aussi un travail artisanal de relations, de contacts. Par exemple, moi, depuis des années, je fais faire des présentations de saison à domicile. C'est-à-dire qu'une fois que la saison est bouclée, avec les RP, on définit des cibles et puis je vais dans un soir chez des gens qui ont rassemblé une dizaine ou une quinzaine de personnes et puis je présente la saison. Ça fait 15 personnes. Si je le fais 10 fois, ça en fera 150. Bon, c'est à la fois
dérisoire. C'est le côté Tupperware, les réunions Tupperware de la culture. Quoi.
Absolument. Alors c'est à la fois dérisoire par rapport à Barbie, mais c'est aussi une façon comme ça d'exister.
Il y a un changement de consommation pour les jeunes. Alors, de plus en plus, évidemment, maintenant on a les plateformes de vidéos, on a les jeux vidéo. Enfin, il y a plein de sollicitations qu'on peut faire autre chose que d'aller voir de la culture. Est-ce que vous voyez un petit peu ce changement?
Je sais pas dire parce qu'on a aussi, le Covid a eu des effets très négatifs, ça a été très perturbant, ça a déstructuré beaucoup de choses, etc. Mais du coup, depuis la reprise, on constate qu'on a un public auquel on n'était pas forcément habitué, de gens plus jeunes. Alors, c'est sûrement multifactoriel. Par exemple, un des effets post-Covid, ça a été les gens qui ont quitté Paris pour venir s'installer dans des endroits plus tranquilles.
Qui, eux, avaient l'habitude d'avoir de la culture à côté de chez eux.
En prévision des futurs confinements. Et qui, eux, avaient l'habitude. Et que, du coup, en arrivant ici, ils disaient, tiens, il y a un théâtre. Et on a, comme ça, rencontré des gens qui se sont installés récemment et qui sont très contents qu'il y ait le théâtre et qui, du coup, viennent, quoi. Et qui sont plus jeunes. Qui sont des gens plutôt dans des tranches 30-40 que 75, quoi. Donc, voilà, il y a un ensemble de choses. Peut-être que la programmation, le travail qui se fait aussi... Alors, sur la communication, la communication, c'est à la fois une communication classique, c'est-à-dire c'est une brochure de saison, quoi, avec les programmes répertoriés dedans. Et puis, c'est un gros travail sur les réseaux sociaux que Camille a, entre autres, la charge de nourrir, d'alimenter, de développer, le site internet, etc. On peut évidemment pas du tout se passer de ces outils-là. Mais après, on peut pas non plus... promettre aux gens des choses qui n'existent pas. On reste quand même sur du théâtre, sur de la danse, même si on essaie d'utiliser des outils qui sont adaptés aux enjeux actuels de relationnel, etc. Donc oui.
De toute façon, il n'y a pas de mystère avec la culture, avec la communication. Si on n'en fait pas, c'est sûr qu'on va se planter. Si on en fait, c'est pas sûr qu'on va réussir. Des fois, on ne sait pas. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de titre Rentrer dans la prog. On va écouter le nouvel album de Delgrez et le titre Promis le ciel. On se retrouve juste après ça et on nous reste encore une petite vingtaine de minutes ensemble. Allez, tout de suite Delgrez sur les ondes de Graphite 94.9 FM.
T'es arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en deux minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pieds, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Les enfants de l'autre côté, on était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués, embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Même comme ça, qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se lever, pas moyen de se laver. Paraît que c'est la félicité, puisqu'on est tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la mer.
Delgrès sur les ondes de Graphite 94.9, toujours la matinale. On parle du Théâtre du Beauvaisis, scène nationale qui va réouvrir du coup en 2025, c'est ça, janvier 2025, c'est ça
la nouvelle début de la programmation, janvier 2025.
Donc déjà, vous avez annoncé un premier artiste, enfin une première, un premier spectacle pour janvier 2025, ça sera Don Juan. Et est-ce qu'on pouvait déjà annoncer d'autres ou c'est secret?
Non, on va pas faire ça dans le secret. Non, alors disons que là, alors il faut bien se resituer les choses. On rentre dans un nouveau théâtre qu'on ne connaît pas. Donc c'est un nouvel équipement. On le connaît parce qu'on a déjà visité de nombreuses fois, mais comment ça va fonctionner, voilà, il y a toute cette chose, ça c'est pas évident.
C'est le rodage quoi.
Ouais, le rodage, et techniquement, on change de catégorie, parce que là les gars ils sont avec un plateau limité à 8 mètres de hauteur, là ils vont se retrouver avec 16 mètres de hauteur, ça change toute la machinerie, ça change vraiment, tout va fonctionner différemment, la logistique, l'arrivée des décors, donc ça il faut qu'on le maîtrise, il faut qu'on se l'approprie, et on sait pas ce qui va se passer, on sait pas, a priori tout va bien se passer, ça va être très fonctionnel, etc., sauf qu'il faut se le mettre dans les pattes, entre guillemets, il faut que l'équipe fixe, l'équipe technique permanente et les intermittents, puisqu'on fonctionne évidemment avec un gros réseau d'intermittents. Il faut que tout ce petit monde-là prenne les choses en main. Il faut que nous aussi, en termes de lien avec le public, etc. Bon, on a... Voilà. Donc, cette première programmation dans le nouvel équipement, qui aura lieu de janvier à juin, puisque les conditions de calendrier qu'on ne maîtrise pas font qu'on ne peut pas rentrer et être actif en programmation dès le mois d'octobre. On va rentrer, mais ça va être plus être des phases de déménagement, d'appropriation, etc. Donc, la programmation... c'est un peu une programmation exploratoire. Ouais. On a une grande salle de 660 places. Actuellement, la salle fait 450 places. Quand on joue deux fois, c'est 900 spectateurs. Quand on jouera deux fois là-bas, c'est 1300 spectateurs. Il faut en trouver 400 de plus. Ouais. comment ça, voilà. Bon, donc on a une programmation dans la grande salle et dans la petite salle. On a essayé d'avoir dans la grande salle des formes très fédératrices, très rassembleuses. Le Don Juan de Bobet, c'est quelque chose. Bon, c'est du théâtre classique, mais évidemment, encore, je l'ai dit tout à l'heure, revisité, etc. Mais c'est très spectaculaire, c'est un énorme décor, etc. On a programmé également, je vous parle pas de chronologie là, mais juste pour donner une idée des titres, on a programmé la compagnie XY avec, voilà, c'est toujours pareil, le nom m'échappe à l'instant, mais il va me revenir tout de suite. Comment tu dis ?
Mobius,
qui est un spectacle absolument magnifique. C'est un spectacle de cirque et de danse à la fois. Et en fait, leur point de
vue. Du coup, c'est Mobius le dessinateur,
c'est la figure géométrique. Okay. En fait, leur point de départ, c'est les oiseaux migrateurs. Quand on voit des milliers d'oiseaux migrateurs qui volent, et puis à un moment donné, paf, ils changent de direction. Et tous ensemble. Et ça dessine des formes comme ça.
Ouais, sur les étourneaux, on voit ça sur les étourneaux,
ce genre de choses, etc. Et comment ils font, quoi ? Ils n'ont pas des casques pour se parler entre eux, etc. Donc, ces espèces de mouvements qui ont l'air d'être liés à des, je sais pas, leur communication, machin. Donc, ils ont imité, entre guillemets, ils ont essayé d'approcher ça avec une vingtaine d'interprètes qui, pendant une heure, évoluent sur le plateau de façon mais complètement très spectaculaire, très engagée, etc. Donc là aussi, on est...
Donc là, c'est de la danse ?
C'est danse-cirque. Okay. C'est parce que c'est des acrobates. La compagnie XY, à la base, c'est du cirque. Mais là, en plus, ils ont travaillé avec Rachidou Ramdan, qui est un chorégraphe, enfin voilà. Bon, un des grands spectacles qu'on va accueillir aussi, dont j'ai vraiment envie de parler, c'est le Firmament de Chloé Dabert. Chloé Dabert, c'est la metteuse en scène qui dirige actuellement le CDN de Reims. Et ce spectacle, Firmament, c'est aussi un spectacle très spectaculaire, il y a un gros décor, etc. Et il y a quasiment que des comédiennes, des comédiennes femmes. Je ne sais plus, il doit y avoir une quinzaine d'interprètes, il doit y avoir 12 femmes et 3 garçons, 3 mecs. Et le principe est vraiment, c'est une façon extrêmement intelligente. Ça se passe en Angleterre au XVIIIe siècle. Un meurtre a été commis. On trouve les coupables, c'est un jeune couple. On pend le type immédiatement et on va infliger le même châtiment à sa compagne qui dit « Ah non, je suis enceinte ». Et à l'époque, quand une femme est enceinte, on ne la pend pas. Parce que ça se fait pas, quoi. Donc du coup, comment déterminer si elle est enceinte ou pas ? Parce que si elle était enceinte de 6 mois, bon, il n'y aurait pas de problème. Mais non. Donc, on réunit un aréopage de femmes de toutes conditions, de la noblesse, de la bourgeoisie, la commerçante, la domestique, etc. Et ces 12 femmes, on leur dit, on les enferme avec la coupable. Enfin, la coupable. Et on dit... Bah dites-nous, dans 2 jours, on revient, est-ce qu'elle est enceinte ou pas. Et ça raconte ça. Et c'est incroyable, parce que là aussi, on est à la fois, on va dire, oui, bon, c'est du théâtre. Alors, évidemment, la pièce a été écrite aujourd'hui, hein. C'est pas une pièce du XVIIIe siècle, c'est une pièce d'aujourd'hui, mais qui se situe dans ce contexte-là, et qui parle là aussi d'enjeux très, très, très forts, très puissants. Ça, c'est la grande salle. Dans la petite salle, on a aussi une programmation, alors, plus légère au sens où, d'abord, la jauge est de 100, 175 places, donc bon... Et on est aussi un peu en exploration là-dessus, c'est-à-dire que comment encore une fois, comment les spectacles vont se parler les uns les autres, s'interpeller. Et donc parmi les spectacles qu'on programme dans la petite salle, on a Tenir debout, qui est une proposition que je trouve très très intéressante de Suzanne Debecq. Suzanne Debecq est une des jeunes comédiennes qui est sortie d'ailleurs du théâtre du Nord, de l'école du théâtre du Nord à Lille. C'est une fille qui doit avoir 26-27 ans, qui a vraiment un parcours déjà très particulier dans le théâtre, et qui, dans Tenir debout, raconte son expérience où elle était chez sa mère en Charente-Poitou, elle va avec son beau-père faire les courses dans un grand magasin, et à la caisse, il y a une affiche qui dit « Mesdames, inscrivez-vous, mesdemoiselles, inscrivez-vous pour le Miss Charente-Poitou ». Et son beau-père lui dit « Bah, si jamais tu auras ton école de théâtre, tu pourras toujours t'inscrire comme Miss ». Alors elle s'est interpellée, elle l'a fait. Et du coup, elle est allée jusqu'au deuxième tour, au troisième tour, et elle raconte, c'est une sorte de théâtre documentaire, où elle raconte, elles sont deux sur scène. Elle raconte ça, et c'est passionnant, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, à l'époque de MeToo, tout ça, les Miss, c'est complètement... À quoi ça rime, quoi. Et en fait, c'est intéressant, parce que le contact qu'elle a avec ces jeunes femmes qui, effectivement, se présentent à ce type de concours, montre que bah, tout ça est compliqué, quoi. Que c'est aussi une façon, pour des personnes qui sont dans les provinces, un peu écrasées socialement, etc., d'essayer d'atteindre...
L'émancipatrice, ouais.
Voilà. Donc voilà, elle joue un peu... Et c'est un petit spectacle, on va jouer 3 fois, puisque, justement, la jauge n'est pas très grande. Voilà, on essaye essaye d'avoir des propositions qui vont nous permettre de nous adresser à un très large public. D'autres, ils sont un peu plus ciblés. Voilà. Et on va voir comment ça fonctionne.
Et en musique, qu'est-ce que vous allez programmer?
Alors en musique, la particularité que nous avons au Théâtre du Beauvaisis, c'est qu'il y a une scène musicale très riche à Beauvais, puisque vous aviez... on a écouté en début d'émission...
Square,
qui est de Beauvais, qui se produit dans différentes occasions, les scènes d'été, etc. Et nous avons des grands festivals qui sont historiquement installés... Le Blues Autour du Zinc,
Pianoscope.
Le Festival du Violoncelle et le Festival Pianoscope. Donc, moi, quand je suis arrivé, je vais pas rajouter des dates à des dates. Enfin, après, les jours n'ont que 24 heures, les programmations n'ont que, etc. Alors, on n'a pas un travail... En général, on programme une date de musique actuelle, mais par exemple, on a programmé Belin, on a programmé Rover, on a programmé, comment elle s'appelait la fille en début de saison je vais retrouver, enfin bon...
Plutôt chanson, bah, chanson rock.
Ah, okay. Chanson française, machin. Et on a un compagnonnage avec l'orchestre Les Siècles. L'orchestre Les Siècles, qui d'ailleurs joue régulièrement à Compiègne chez Éric Rouchot, là. C'est un orchestre de musique classique et contemporaine. Très intéressant, très particulier, parce que c'est plutôt des gens jeunes, c'est plutôt des gens qui jouent sur des instruments d'époque, etc. Et donc on a toujours une date avec Les Siècles dans la saison, et en général, donc une date de je sais pas comment on pourrait dire, musique actuelle, quoi, mais plutôt variété, chanson française, quoi.
Voilà. Donc là, les autres équipements, la maladerie va reprendre son espace complet. Peut-être que l'ASCA, du coup, va aller venir faire un petit tour à la maladerie, puisqu'il, pour l'instant, il n'y a pas d'ASCA.
Ils font déjà des petits tours chez nous, puisqu'on a accueilli un concert, là, je ne sais plus, il y a quelques semaines, parce qu'effectivement, bon, ils sont dans cette logique de... je ne sais pas, on verra comment on gère avec eux ce passage-là. Oui.
Et sur les territoires, ça fait, on dirait que je suis parisien et que je parle de la province, hein. Plutôt en milieu rural, comment ça se passe dans l'agglo? Est-ce que vous allez...
On a un gros travail de décentralisation, qui s'appelle l'itinérance en Pays de l'Oise, où on essaye d'avoir au minimum 5 spectacles par saison qui jouent au moins 8 fois. Donc c'est des petites tournées du lundi au samedi, avec dans des
salles des fêtes ou ce genre de choses.
Alors dans des lieux effectivement qui sont pas du tout adaptés à prix. Enfin soit des salles des fêtes, soit même des lieux très improbables, hein, dans des halls de mairie, dans des trucs. Bon, évidemment il faut quand même que quelques petites conditions techniques soient réunies. Et donc en général on fait au moins une cinquantaine ou une soixantaine de dates sur le territoire, dans des villes de l'agglo, mais au-delà même de l'agglo.
Sur les autres scènes nationales, notamment Compiègne avec l'espace Jean Legendre et puis avec Creil, hein, la faïencerie de Creil, il y a des coproductions. Je crois que vous avez des artistes qui se baladent entre les trois lieux.
Alors, je ne veux pas faire prétentieux, etc., mais Creil et Compiègne ne sont pas des scènes nationales.
Ah d'accord, ok, je pensais. Non, il n'y a que vous dans l'Oise qui avez la scène nationale.
Ouais, avec dans l'ex-Picardie. Enfin, là aussi, je ne sais pas si au petit-déj, vos auditeurs vont être passionnés par ça, mais l'ex-Picardie avait une particularité, c'est qu'il y avait une relative faiblesse des lieux labellisés. Mmh. Il y avait une seule scène nationale à Amiens, alors qu'en Nord-Pas-de-Calais, il y en a 7 ou 8. Il n'y a pas de centre dramatique national, alors qu'il y en a 2 dans l'ex-Nord-Pas-de-Calais, etc. Donc, pendant des années, il y a eu Amiens, point. Maintenant, il y a Beauvais. Donc, deuxième scène nationale, c'est Beauvais. Et mes Creil et Compiègne sont des scènes conventionnées qui font un excellent travail, chacune dans leur particularité. Je crois que Creil, depuis la nomination de la nouvelle directrice, est très orientée, art de la rue, cirque, etc., avec un très beau travail, même si elle fait aussi du théâtre et de la danse. Et Éric Rouchot à Compiègne est plus, malgré tout, avec le théâtre impérial, vers le lyrique, l'opéra, etc. Donc il y a une sorte de complémentarité d'une certaine façon sur le territoire. Et alors on a des liens, on a des liens construits chaque saison par des échanges de spectateurs. C'est-à-dire que voilà, ils choisissent dans notre programmation des spectacles et les spectateurs de chez eux viennent et vice-versa. Et puis on a aussi des liens, mais qui sont plus fortuits, qui sont pas systématiques, mais ils peuvent se produire. Par exemple, l'ensemble Miroirs étendus, c'est un ensemble de musique aussi de jeunes gens, plutôt musique classique, mais bon, modernisée, entre guillemets. Et ils travaillent avec Compiègne et ils travaillent chez nous aussi. Et puis, à la faïencerie, il peut nous arriver aussi d'avoir des artistes qu'on a comme ça un peu... Mais c'est pas forcément une volonté a priori, quoi. Ça peut se produire, mais...
C'est quoi votre coup de cœur cette année ?
Par rapport à la programmation à venir, là ?
Ou, en général.
En général, dans la vie.
Restons dans la culture, mais en général. Quelle est la chose où vous avez dit waouh, ça c'est peut-être pas programmé encore chez vous, mais là vous avez dit waouh.
Bah, quelque chose qu'on pourra jamais programmer, qui est le dernier album des Rolling Stones. et oui. Voilà, si vous voulez me demander sincèrement mon coup de cœur, c'est mon grand plaisir, après 16 ans après leur dernier album, d'avoir retrouvé un album que je trouve plutôt bien, etc. Mais évidemment qu'on programme jamais. Bon,
peut-être au blues autour du zinc, hein, peut-être au blues autour du zinc, les Rolling Stones.
Oui, c'est ça, j'ai le robot Simba. Non, voilà, après, mon coup de cœur en théâtre, je sais pas, c'est tellement, je vois tellement de choses passionnantes.
On peut rester sur les Rolling Stones, hein, c'est très bien.
Voilà.
et vous, Camille, coup de cœur de cette année ?
Cette année, j'ai beaucoup aimé L'Iliade et l'Odyssée de Pauline Bayle au théâtre. Donc,
là, c'était au Théâtre du Beauvaisis, ouais.
C'est ça, au Théâtre du Beauvaisis.
Et en dehors du Théâtre du Beauvaisis, est-ce qu'il y a un coup de cœur même autre que...
Oui, alors là...
On a presque la fin d'émission. C'était où, c'était à Creil ?
Ouais, je me souviens plus du nom.
Bon, on essaiera de retrouver sur Internet. En tout cas, c'était à la faïencerie.
Oui.
Bah, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous ce matin. On rappelle les dates du Festival des Arts en Beauvaisis du 22 au 25 mai de cette année, hein, évidemment. C'est entrée libre sur réservation, donc il faut réserver sur le site Internet du Théâtre du Beauvaisis, j'imagine. Nouvelle programmation qui va arriver à partir de septembre, ou c'est une programmation à l'année ?
Ça commencera à partir de septembre, mais ce sera évidemment dans des structures encore à l'extérieur, etc. La programmation dans le Nouveau Théâtre, c'est à partir de janvier 25.
Et là, le foutoir céleste qui a lieu mercredi ou jeudi,
oui.
C'est ça ?
Oui.
Pour le grand public, et avant des programmations pour les scolaires.
Et ce week-end également, le foutoir céleste, ça joue aussi vendredi, samedi et dimanche.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez pris l'émission en cours de route, et évidemment, les podcastables, www.graphite.net. Et on se quitte avec un titre oldies, comme on dit à la radio, avec Deftone, un vieux morceau qui rentre à nouveau en prog. Merci.
Merci.
Bonne journée.
Invitation.
Bonne journée.